Que le nom du Seigneur soit béni. Si je devais faire un lien entre le dernier chant et ce que nous allons partager ce soir, je pourrais dire quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime le Seigneur, il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes engagés avec lui. Nous allons pouvoir partager ce soir notre implication personnelle dans l'œuvre de Dieu, surtout quand on a compris l'amour qu'il avait manifesté pour nous, et lorsque nous professons, comme nous l'avons fait au travers de ce cantique, que nous aussi, nous l'aimons. Alors pour vous qui avez peut-être suivi les différents messages qu'on a pu entendre ici dans l'Assemblée ces derniers temps, vous allez certainement retrouver beaucoup d'éléments, parce que moi-même, en le préparant ce message, il y a beaucoup de choses que nous avons déjà entendues, mais peut-être il est bon pour nous ce soir de les réentendre, et tout particulièrement pour ceux qui ont peut-être été là samedi matin, puisque samedi matin je ne savais pas encore que je porterais le message, mais le Seigneur m'a interpellé sur une pensée particulière lorsque notre frère a mis particulièrement en parallèle d'une part la responsabilité de l'homme et aussi d'autre part la responsabilité de Dieu, notamment sur ce thème du baptême du Saint-Esprit, que nous puissions considérer que Dieu veut que nous soyons participants dans son œuvre. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie de passivité où nous attendons qu'il fasse tout à notre place. Il y a des lois que Dieu a posées sur nos vies et je crois qu'il est de notre responsabilité de nous engager dans ce que Dieu nous demande de faire pour que lui puisse accomplir ce qu'il nous a donné déjà par avance. C'est un petit peu cette introduction samedi matin pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et les conditions particulières que la Bible nous demande. Alors nous voyons tout au long de la Bible apparaître ce principe, c'est que Dieu veut rendre les hommes et les femmes qu'il a appelés, il veut les rendre participants à son œuvre. Ça c'est un principe que nous voyons tout au long de la parole de Dieu. Ça part depuis Noé, d'ailleurs notre frère en a parlé, lorsque Dieu va décider d'envoyer le déluge, il va déléguer une certaine responsabilité à Noé de construire l'arche. Comme cela avait été dit, Dieu aurait pu très bien construire l'arche, ce n'était pas un problème pour lui, mais Dieu a voulu utiliser un homme, Noé, un homme selon son cœur, pour que ce dessein de Dieu puisse s'accomplir. On pourra aller plus loin lorsque nous voyons Moïse. Dieu intervient d'une manière extraordinaire pour la délivrance de son peuple. Nous voyons la toute-puissance de Dieu se manifester dans les différentes plaies en Égypte. Et pourtant, Dieu va choisir un homme, en l'occurrence Moïse, pour la direction du peuple. Alors on pourrait multiplier les exemples, mais dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Dieu aussi convertit, comment Dieu opère des prodiges et des miracles, comment Dieu lui-même guérit, et délègue la responsabilité à l'homme, aux apôtres, aux différents serviteurs, d'annoncer, de prêcher la parole et de même imposer les mains. Pour nous aussi, croyants de 2015, ce principe s'applique encore. Et je voudrais lire un texte avec vous, le premier, dans 2 Pierre, au chapitre 1er. Et nous lirons à partir du verset 3. Jusqu'au verset 5, pour commencer. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. « Sa divine puissance nous a donné, soulignez bien ce donné dans votre cœur, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Verset 5. « À cause de cela même, faites tous vos efforts. » Alors là, je vais un peu alourdir le texte, mais intentionnellement. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts pour joindre à la vertu la connaissance. Faites tous vos efforts pour joindre à la connaissance la maîtrise de soi. Faites tous vos efforts pour joindre à la maîtrise de soi la patience. Faites tous vos efforts pour joindre à la patience la piété. Faites tous vos efforts pour joindre à la piété l'amitié fraternelle. Et faites tous vos efforts pour joindre à l'amitié fraternelle l'amour. Amen. On lira un petit peu plus loin. Excusez-moi d'avoir un peu modifié le texte, mais en tout cas, c'est ce que cela veut dire. Faites tous vos efforts. Et c'est le titre que j'ai pris pour notre message ce soir. Faites tous vos efforts. Sa divine puissance nous a donné. D'un côté, ce que Dieu a donné, ce qu'il a préparé, on pourrait dire, je pense très honnêtement ce soir, que Dieu a très, très largement fait sa part. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable. Il nous a donné tout ce qu'il fallait pour que nous puissions vivre les uns et les autres dans l'attachement à Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans le verset 3 et au verset 4, toutes ces promesses, ces précieuses promesses qui s'attachent directement à ce don que Dieu nous a fait. Dieu a fait sa part. Et qu'est-ce qu'il nous demande ? À cause de cela, au verset 5, il nous demande de faire tous nos efforts, pour accomplir notre part. Qu'est-ce que c'est notre part ? Eh bien, c'est de faire fructifier ces dons, de les utiliser pour grandir dans la foi et pour grandir dans la connaissance du Seigneur. Ce sera donc le thème de notre message ce soir. Faites tous vos efforts. Pour autant, nous devons reconnaître que la ligne de démarcation entre la part de l'homme et celle de Dieu n'est pas toujours facile à déterminer dans notre marche chrétienne. Et je voudrais que nous puissions, à l'aide de plusieurs textes de la parole de Dieu, que nous puissions essayer de définir le mieux possible ce que c'est cette ligne de démarcation, afin que nous puissions prendre part à notre entière responsabilité personnelle pour que les dons, si beaux soient-ils, que Dieu nous fait, puissent fructifier dans chacune de nos vies. La ligne de démarcation est difficile et nous devons le reconnaître. Afin que non seulement nous puissions être engagés, interpellés que nous avons des efforts à faire, mais aussi que ce soient des efforts utiles et des efforts véritablement complémentaires à l'action de Dieu. Alors c'est vrai que quand on lit ces versets, on peut trouver cette sorte de paradoxe que nous trouvons dans d'autres textes de la parole de Dieu. D'un côté, Dieu donne, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est quelque chose qu'il offre, c'est gratuit, il donne, il nous l'a donné. Et d'un côté, de l'autre côté, il nous demande d'œuvrer pour acquérir, pour que ce don prenne toute son ampleur dans notre vie. Et c'est vrai qu'entre ces deux côtés, ces deux aspects un petit peu de la vie chrétienne, parfois nous avons du mal à nous positionner, peut-être dans trop l'excès d'efforts, et peut-être trop souvent aussi dans le peu d'efforts, nous attendant, à ce que Dieu fasse pour nous ce que nous devons faire pour que son œuvre s'accomplisse. Quand nous chantons « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien », c'est vrai que c'est un acte de foi. Nous nous attendons pleinement au Saint-Esprit pour agir dans nos cœurs et dans nos vies, mais cela dépendra de nos choix, des dispositions que nous ferons, peut-être même des aspects physiques de notre vie dans lesquels nous nous engageons pour lui. On va lire juste un autre texte dans Josué au chapitre 1er. Alors là, on fait un bond dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Josué, au chapitre 1er, juste pour voir aussi encore cette sorte de paradoxe qui n'en est pas un, mais qui nous aide en tout cas à mieux comprendre à la fois l'œuvre de Dieu et de l'autre côté, la part de l'homme, la responsabilité de l'homme qui s'engage avec lui. Juste le verset 11, c'est lorsque le peuple d'Israël va enfin, j'allais dire, entrer au pays de Canaan, ce pays de la promesse. Et il est dit ceci au verset 11, verset 10, « Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, « Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Amen. On voit aussi un petit peu ce qu'on pourrait appeler comme une sorte de paradoxe, mais qui n'en est pas du tout, mais on pourrait l'appeler ce soir un petit peu comme une tension qui existe dans notre vie. Et je trouve que cet exemple est intéressant de ce verset. Pourquoi ? Parce qu'on peut même le relier un petit peu au texte précédent, parce qu'il y a un parallèle saisissant entre cette conquête d'Israël du pays de Canaan et notre vie chrétienne. Dieu le donne. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et nous devons être pétris de cette pensée. C'est un don qui vient de Dieu. Il a tout préparé. Ce soir, nous pouvons encore entendre dans ce que nous partageons le tout accompli à la croix du calvaire. Rien n'y changera. Tout a été accompli. On peut penser aussi à toutes ces paraboles lorsque tout est prêt. Tout a été préparé. Dieu donne. Et pourtant, Dieu interpelle son peuple d'aller conquérir ce pays et à nous aussi d'aller conquérir tout ce que Dieu a réservé pour chacun d'entre nous. Faites tous vos efforts. Ce cadeau, si beau était-il du pays de Canaan, il fallait aller se le gagner, obéir à la voix de Dieu. Et chaque fois que le peuple d'Israël était vraiment dans le projet de Dieu, Dieu accomplissait, j'allais dire, naturellement son œuvre par des prodiges et des miracles extraordinaires. La première chose que je voudrais laisser sur votre cœur, c'était que l'introduction, ça va, vous n'avez pas peur. Sur ce thème, faites tous vos efforts. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est essayer de définir la part de nos efforts dans l'œuvre de Dieu. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que cette ligne de démarcation n'est pas toujours simple. De nous attendre à ce que Dieu fait, Dieu ce qu'il accomplit, et la part de ce que nous avons à faire, notre responsabilité. C'est directement lié, notre frère en parlait encore samedi matin, au libre arbitre que Dieu nous laisse. La part de nos efforts dans l'œuvre de Dieu. Et je voudrais insister sur une chose auparavant. Je voudrais insister sur ce point qui est important. C'est que Dieu peut faire tout, tout seul. Il n'a pas besoin de nous quand nous, on ne peut rien faire sans lui. Il peut faire tout, tout seul. Parfois, on pense même qu'il ferait mieux sans nous. Mais dans sa grâce, non seulement il nous a appelés, mais il veut nous impliquer dans son œuvre. C'est son plan, c'est son projet, ça nous dépasse. Mais en tout cas, c'est sa volonté. Et il s'attend à ce que nous utilisions les moyens, tout ce qu'il met dans nos vies, pour que nous puissions œuvrer avec lui. Je prends un petit exemple, comme ça, tout bête. Si Dieu demandait à un pasteur d'aller dans une région, apporter le message de l'Évangile dans une communauté particulière, je pense que nous attendrions à la chose suivante, et Dieu s'y attend en tout cas, eh bien c'est que ce serviteur, non seulement obéisse, mais aussi planifie, il va réfléchir, il va s'organiser avec les moyens qu'il a, il utilisera sa voiture, un train particulier, peu importe, mais voilà ce qui va se passer. Mais comprenons bien que Dieu a la possibilité de prendre ce serviteur à un endroit A et de le transporter par l'esprit à un endroit B. Dieu peut très bien le faire. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça a été fait dans la parole de Dieu. On voit qu'à un certain moment donné, le Seigneur, par le Saint-Esprit, a interpellé Philippe pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit que Philippe est parti, il a annoncé la bonne nouvelle à l'eunuque éthiopien, vous trouvez cela dans Actes au chapitre 8. Et puis à un moment donné, on voit que l'Esprit a enlevé Philippe. Dieu peut tout faire sans nous. Il fait comme il veut. Mais serait-il raisonnable que sur cette donnée-là, un serviteur dise, eh bien moi je vais attendre, j'ai compris l'appel, je veux bien obéir et je reste là. On trouverait l'attitude peut-être un peu insensée. Et pourtant, Dieu a préparé tellement d'œuvres devant nous que parfois nous avons la même attitude et nous ne mettons peut-être pas suffisamment d'efforts dans les moyens que Dieu a mis autour de nous pour être impliqués dans l'œuvre qu'il nous demande. Je voudrais lire un texte avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 11 qui va peut-être nous aider. Alors, j'accepte que vous ne soyez pas forcément entièrement d'accord avec la façon dont je vais utiliser ce texte. C'est une pensée que j'ai eue pour... Je pense qu'il y a une image qui est assez forte pour nous. Je demande de l'écouter. Dans Jean chapitre 11, il y a ce miracle extraordinaire de la résurrection de Lazare, un texte que nous connaissons bien. Et je voudrais utiliser ce texte pour qu'on essaye justement de cerner un petit peu cette fameuse ligne de démarcation entre, d'un côté, l'œuvre de Dieu et la part de l'homme, notre implication, notre rôle à nous. On lit juste quelques versets, on ne lit pas tout, puisque ce n'est pas le but de ce soir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, au verset 38, il est écrit ceci, « Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Quand on voit comment le Seigneur Jésus, par sa parole toute puissante, redonne vie à Lazare, me semble-t-il, ne pouvait-il pas ôter cette pierre qui fermait la grotte? Quand on voit ce que Jésus a accompli, le Seigneur Jésus ne pouvait-il pas permettre que les liens qui liaient Lazare soient enlevés, lui qui a pu transporter Lazare qui était lié des pieds et des mains? Pourtant, Jésus va demander aux hommes à la fois de sortir la pierre et Jésus va demander aux hommes ensuite de délier Lazare. Je voudrais me servir de cette situation de Lazare pour parler, parce que je ressens dans mon cœur une image assez forte de tous les morts spirituels qui, autour de nous, nous entourent. C'est un peu l'image. Tous ceux qui n'ont jamais été en contact avec la parole de Christ, ils sont comme des morts spirituels et ils sont là autour de nous. Nous sommes en ce moment dans notre assemblée sur une dynamique d'évangélisation et cela nous interpelle justement que ce message pour les perdus puisse être annoncé avec efficacité. Alors, il y a cet ordre de Jésus, ôtez la pierre. Est-ce que cela pourrait pas nous interpeller les uns et les autres dans le rôle que nous avons à jouer, justement dans la préparation des cœurs? Comme d'ailleurs Jean-Baptiste le dira, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ces sentiers dans Matthieu chapitre 3, verset 3. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a tellement, tellement de choses autour de nous dans ce monde qui font obstacle à la parole de Dieu. Tant de fausses doctrines, tant d'incrédulité, tant de contestations, tant de mépris, nous pouvons dire, tant de haine parfois contre la parole de Dieu, qui empêche, c'est comme cette pierre qui est là, qui empêche la parole de Dieu de pénétrer le mort. Mais nous pouvons participer, nous aussi. Nous ne pouvons pas convertir les gens. On va le redire encore ce soir, cela a été dit dans différentes réunions, mais je voudrais encore insister là-dessus ce soir. Nous ne pouvons pas convertir les gens, mais nous pouvons en tout cas, et nous de savoir notre rôle, de permettre aux morts spirituels d'être en contact avec la parole de Christ. Il faut savoir où notre rôle s'arrête. Ce n'est pas notre rôle d'aller sur le mort, de lui parler, d'essayer de le secouer. Ce n'est pas notre rôle, encore dirais-je, de lui délier les bandes, qui sont un petit peu l'image de cette vie, cette ancienne vie de péché. Nous avons parfois été peut-être un petit peu loin lorsque nous avons un peu exigé de ceux qui étaient morts spirituellement de se dépouiller de leur ancienne vie. Notre rôle s'arrête, et je voudrais que notre assemblée soit pénétrée de cette pensée, notre rôle s'arrête de mettre les perdus en contact direct avec la parole de Christ. Si nous faisons cela, la parole de Dieu va pouvoir pénétrer les cœurs. Et vous avez vu la parole de Jésus, Lazare sort. C'est une parole qui donne la vie. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On ne peut pas convertir les gens. On aurait parfois un petit peu envie de secouer le mort, mais nous ne pouvons pas. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de les mettre en contact avec la parole de Dieu. Si nous faisons simplement notre part, Dieu fera la sienne. Le mort entendra, recevra cette parole, il recevra la vie. Et encore, le Seigneur veut nous impliquer. Déliez-le. Là, peut-être, oui, est important dans les nouveaux-nés spirituels de les accompagner, de les aider. Et je pense à toutes ces exhortations de la communion fraternelle de la parole de Dieu dans toutes les épîtres qui nous demandent de veiller, de prier les uns pour les autres, de nous accueillir. Là, peut-être, effectivement, il y a une dimension où nous aidons à se délier, à se dépouiller de toute l'ancienne vie. Que de maladresses ne nous éviterions-nous pas, peut-être parfois, si nous savions où notre rôle se place et où il s'arrête pour laisser Dieu pleinement agir. J'ai voulu prendre cet exemple un petit peu pour que nous essayions d'une manière un peu visuelle, même si c'est très difficile, de comprendre la part de nos efforts dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, dans un deuxième temps, je voudrais voir différents domaines où le croyant doit faire des efforts. Alors nous venons d'en parler, le premier point c'est l'évangélisation. Dieu, nous l'avons dit, attend nos efforts pour mettre les perdus en contact direct avec la parole de Dieu. Et Dieu fera son œuvre, j'allais dire, comme il le voudra. Dans le temps qu'il le voudra. Vous savez, il y a beaucoup de frustration parfois dans notre cœur. Il y a des gens qui viennent la première fois, premier contact avec l'Évangile, sont convertis. Il y en a, ça prendra. Qu'importe, dirais-je. Nous le voyons dans nos familles, autour de nous. Allons plus loin, peut-être nous-mêmes. Quelle réaction, comment avons-nous reçu la parole de Christ? Qu'importe, notre rôle, les mettre en contact, ce doit être le rôle dans l'évangélisation de notre assemblée. Je voudrais lire un verset avec vous dans Actes 2, verset 47. Quel doit être notre rôle dans ce domaine de l'évangélisation? Eh bien, regardez ce verset, Actes 2, verset 47, la fin du verset. Il est dit ceci: Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. C'est qui le faisait? Le Seigneur, c'est lui-même. Augmenter le nombre de fidèles à l'Église, ce n'est pas notre rôle. C'est son rôle à lui. Nous, si nous essayons de le faire, qu'est-ce que nous ferons tout au plus? Des adeptes, des sympathisants de l'Évangile. Et il y en a malheureusement parfois. Ça, c'est le rôle de Dieu. C'est lui qui ajoute les âmes à l'Église. Et notre rôle, il est où? Regardez verset 42. Rappelons le titre, faites tous vos efforts. Qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait. dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. C'est le Saint-Esprit, Jésus l'avait annoncé, qui convainc de péché, de justice et du jugement. Nous, on n'a aucun rôle pour convaincre les gens. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de les mettre en contact avec la parole de Dieu, la parole de Christ, que notre lieu soit accueillant pour cela. Quand je dis mettre en contact avec la parole de Christ, ce n'est pas forcément que des paroles. C'est certain que l'idéal, c'est qu'ils puissent lire la parole de Dieu, que nous puissions peut-être parfois énoncer des versets, mais c'est aussi le témoignage de notre vie. Vous savez que parfois, nos actes, nos comportements parlent beaucoup plus que nos paroles. Nous sommes bien d'accord là-dessus, et je crois que c'était justement le témoignage de l'Église primitive. L'association, donc vous voyez, la part de Dieu, alors j'aime pas trop dire la part de Dieu et la part des hommes, parce que c'est l'œuvre de Dieu, il n'y a pas une part particulière à Dieu, Dieu il fait tout, c'est plutôt nous, notre rôle, et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que finalement parfois nous faisons trop d'efforts, parce que nous ne sommes pas dans la partie que Dieu nous demande. On peut parfois même se fatiguer, on peut peut-être même parfois faire beaucoup plus d'efforts que ce que Dieu lui-même nous demande. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas compris forcément le cercle et le domaine bien défini que Dieu nous avait demandé de faire. Un autre texte dans Marc chapitre 16, verset 15, je crois qu'il avait été cité aussi samedi matin. Vous allez croire que j'ai pris les notes vite fait à notre pasteur. Marc 16, verset 15. Toujours dans ce domaine de l'évangélisation où le croyant doit faire des efforts. Et c'est notre responsabilité. Jésus a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Amen. Et qu'est-ce qu'il est dit un petit peu plus loin, au verset 20, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils s'en allèrent prêcher partout. Ça, c'est la dimension des efforts. Prenez comme vous voulez. Et qu'est-ce qui est écrit plus loin ? Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Voilà un domaine dans lequel nous devons, eh bien, nous aussi, faire des efforts, le domaine de l'évangélisation, dans le rôle que Dieu a imparti à chacune de nos vies. Un autre domaine aussi où le croyant doit faire des efforts, c'est le service pour Dieu. Alors, ça dépasse le cadre de l'évangélisation, c'est le service pour Dieu dans son ensemble. Et l'apôtre Paul ira même pour parler de cette association et cette implication que nous devons avoir dans l'œuvre de Dieu, l'apôtre Paul ira même jusqu'à utiliser cette expression que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et je voudrais le lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Alors c'est le rôle des serviteurs de Dieu. Il y a eu quelques petites jalousies, des disputes, enfin des choses un petit peu complexes. Vous pourrez relire ce chapitre si vous voulez, mais juste le verset 5 jusqu'au verset 9. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Certains, eh bien, ils jettent la semence dans les cœurs pour la planter. D'autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils enlèvent la mauvaise herbe. D'autres, ils vont aérer la terre. Plein d'images qu'on pourrait avoir qui parlent de notre implication. D'autres mettent de l'engrais, etc. D'autres arrosent, Apollos. Selon les dons que Dieu a donnés à chacun. Point à la ligne. Et aussi, selon les temps dans lesquels nous participons à cette œuvre. Certains, eh bien, ils font que semer, d'autres récoltent. Voilà, c'est le plan et le projet de Dieu. Mais autant il est important de travailler avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de zèle, c'est pour ça que je faisais ce lien avec ce chant, « Mon Jésus, je t'aime, je t'aime, je compte pas, j'ai de l'ardeur, j'ai du zèle pour te servir. Autant il est important de travailler, vous avez vu au verset 8, cette notion de travail, elle est là. Hein, vous l'avez vu, c'est pas selon son propre travail, ça fait quand même référence à des efforts. Autant il est important de ne pas empiéter le domaine de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Et ça, c'est une pensée qui doit nous être utile justement dans notre implication dans le service de Dieu. Faire tous vos efforts dans le service. Et je voudrais donner un troisième point dans le domaine où le croyant doit faire des efforts. C'est le domaine de la sanctification. Alors là, c'est compliqué. Parce que il y a une tension importante dans les églises, dans même l'histoire de l'église en général, entre d'un côté la dimension légaliste, faire pour plaire à Dieu, de manière à ce qu'à la fin il n'y a que l'extérieur, vous savez, la pratique religieuse, mais plus de vie à l'intérieur, ça c'est le côté légaliste. Et il y a aussi de l'autre côté le laxisme, Dieu est amour. Dieu est bon, louons-le, réjouissons-nous de sa bonté, et c'est tout. Dans la sanctification, nous devons, nous aussi, faire tous nos efforts, afin que les dons que Dieu nous a faits, quand on chantait ce cantique, non, c'était celui à la croix, par ton sacrifice. Je crois à ton sacrifice. Et c'est quelque chose qui doit... Bien sûr que ça paraît presque évident pour notre conversion, mais c'est aussi de la croix que nous recevons toute la grâce de Dieu pour vivre dans le chemin de la sanctification. Il nous a donné tout ce dont nous avions besoin, et on va le revenir d'ailleurs sur ce texte de Pierre. Cette notion de travail, cette notion d'effort, même si elle n'est pas forcément physique, elle apparaît clairement dans ce texte, dans Jean au chapitre 6, regardez-le avec moi. Regardez, dans Jean au chapitre 6, verset 27, toujours cette tension entre nos efforts et ce que Dieu a accompli pour nous, hein, toujours le don qui est là. Jésus a dit ceci, Jean chapitre 6 et au verset 27, « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Amen. Travail, notre responsabilité, mais dans ce que Dieu donne lui-même. Toujours cette tension entre l'effort et le don. N'oublions jamais que c'est un don, c'est quelque chose de complètement gratuit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. En plus, tout est prévu en définitive. Alors il faut quand même revenir dans 1 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 1er, et donc nous avons lu, et vous le reméditerez peut-être chez vous, mais en tout cas c'est important de reconnaître, comme on l'a lu tout à l'heure au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout le chemin sur la sanctification est prévu dans le programme par Dieu. Il nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Et pourtant, il est dit, faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Vous avez vu avec moi tout à l'heure au verset 5, pour joindre à la foi la vertu. La vertu, c'est cette bonne conduite que nous devons avoir. Ensuite, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience. C'est des notions où nous devons être abondants en efforts. Faites vos efforts, l'amitié fraternelle et l'amour. Et si ces qualités grandissent en nous, alors il est dit au verset 8, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, c'est-à-dire inactifs et ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, notre connaissance du Seigneur Jésus va grandir. L'implication de l'homme dans l'œuvre de Dieu est importante. Et nous ne devons pas... C'est vrai qu'il y a peut-être parfois ce réflexe de tomber dans une dimension plutôt que dans une autre. Lorsque nous comprenons l'œuvre que Dieu a accomplie, et je le redis encore une fois de plus, d'une manière parfaite, tout est accompli, nous n'avons, nous, rien à y rajouter. Même si notre vie, du début jusqu'à la fin, était parfaite et conforme à toutes les lois de Dieu, elle ne rajouterait rien à l'œuvre de la grâce. C'est comme cela. Dieu a tout prévu. Il nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Mais pour que nous puissions en jouir pleinement, pour que ce don fructifie dans notre vie, nous devons faire des efforts dans ces différents domaines particuliers que l'apôtre Pierre nous a laissés. Et je voudrais lire peut-être un autre texte avec vous dans Tite au chapitre 2. Tite chapitre 2. On terminera par ce texte parce que j'avais une troisième partie, mais je ne voudrais vraiment pas être long ce soir. On reste sur ce troisième domaine où le croyant doit faire des efforts sur la sanctification. C'est vraiment un domaine important où parfois le croyant attend trop de l'action du Saint-Esprit et de la vie sur sa vie. Il faut l'attendre parce que cette vie, elle ne peut venir que du Seigneur, mais d'une manière trop passive. Et nous devons être actifs, nous devons faire des efforts. La sanctification, ce n'est pas quelque chose comme ça qui se vit du jour au lendemain. Jour après jour, nous l'avons chanté, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Et nous savons que la convoitise, tout à l'heure nous prions pour les coups, pour différentes situations, nous savons que la tentation du monde, elle est partout, partout autour de nous. Et chacun de nos frères et sœurs, nous-mêmes, nous y sommes sujets et nous devons être vigilants, nous devons faire des efforts. Et le chemin de la sanctification, c'est tout ce projet que Dieu veut accomplir dans nos vies. Et dans Tite, chapitre 2, verset 11, il est dit ceci, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, et là on peut le souligner juste, pas physiquement, mais dans notre cœur, purifié par lui, on est bien d'accord, et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. La grâce de Dieu, et la grâce de Dieu elle seule, excusez-moi d'insister autant ce soir, c'est elle qui nous sauve, c'est elle qui nous éduque, c'est elle qui nous pousse à nous détourner du mal, à rejeter les passions pour mener une vie équilibrée, une vie juste, une vie sainte, à la gloire de son nom. Mais Dieu attend de nous, et je dirais, il le peut en rapport de tout ce qu'il a fait. Dieu attend de nous que nous mettions toute notre ardeur, tout notre zèle à accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Que son nom soit béni. J'aurai d'autres choses à vouloir partager avec vous, mais on arrête là. Prions un instant le Seigneur. Éternel, nous voulons te bénir pour ta parole. Quel équilibre, Seigneur. Quel équilibre. Et nous te prions pour chacune de nos vies, afin que nous puissions être gardés dans ces préceptes que tu nous as laissés. Oui, nous croyons ensemble, parce que ta parole nous le déclare. Tu as tout accompli. Tu as tout fait d'une manière parfaite pour que aujourd'hui, en 2015, quiconque sur la terre puisse se saisir de ta grâce pour le salut de son âme, mais aussi pour vivre dans cette vie une œuvre de service, ouvrier avec toi, Seigneur, impliqué avec toi dans cette œuvre, mais aussi pour être transformé de jour en jour, pour vivre une vie de sanctification, une vie de piété, conforme à ta parole. Tu as tout prévu, Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Et nous avons notre part à faire. C'est vrai que nous devons reconnaître que parfois, nous sommes un petit peu hésitants sur le rôle et la part que nous avons à faire pour ne pas aller trop loin et surtout en faire suffisamment aussi. Alors éclaire-nous, Seigneur. aide-nous que nous puissions discerner réellement, Seigneur, tout ce que tu attends de chacun de nous, dans nos efforts particuliers, dans nos choix, Seigneur, dans nos décisions, Seigneur. Nous voulons remettre nos vies entre tes mains, afin que ta gloire, afin que la manifestation de cette œuvre que tu as déjà préparée puisse se manifester déjà dans notre vie, dans nos familles et dans ton assemblée, Seigneur. Nous croyons qu'il y a une multitude d'âmes qui se perdent autour de nous, Seigneur, et nous avons besoin de les mettre en contact avec ta parole. Seigneur, ta parole seule ressuscite les morts encore aujourd'hui, et nous te prions de nous donner la sagesse aux uns et aux autres, Seigneur, de les mettre en contact, Seigneur, selon le rôle que tu nous as donné aux uns et aux autres. Nous te disons merci pour ta parole. Garde-nous les uns les autres. Amen.